Ça fait plaisir de vous voir tous et de vous entendre chanter. D'abord, je profite de l'occasion qui m'est faite d'être là pour remercier les auteurs d'une carte que j'ai reçue. Je vous la lis. Cher Guy, nous pensons bien à toi, à ton frère Jacques et à ta sœur Pierrette. Nous t'assurons de notre soutien et de notre affection. Vous êtes dans nos prières. Et il y a 16 signataires. Ce sont les jeunes du groupe de jeunes. Merci beaucoup. J'ai transmis évidemment vos messages et donc ils ont été très touchés et ils vous remercient. Ben, c'est un acte d'amour, et ce matin, je vais vous parler d'amour. Question. Est-ce que vous m'aimez ?
Oui.
Je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme. Je pensais plutôt être devant un silence. Cette question est un peu bizarre, n'est-ce pas ? De quel amour parlons-nous ? C'est une pub qui m'a donné le titre de mon message. L'amour, what else ? L'amour, quoi d'autre ? De quel amour parlons-nous ? L'amour est partout, chante Francis Cabrel dans sa chanson « Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai ». Quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. Et Pierre Bachelet, lui, dans sa chanson « Sans amour », disait « Sans amour, le soleil n'existe pas. Il n'est qu'un décor pour un jour, un point blanc, un astre mort. Rien ne te réchauffera. Sans amour, ta vie n'est qu'un maquillage. » Effectivement, combien de chansons, de spectacles, de tableaux, de sculptures, de livres ont-ils été consacrés à ce thème ? Effectivement, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'être aimés et nous avons besoin d'aimer. Mais de quel amour parlons-nous ? La langue française est très pauvre. On utilise ce même verbe « aimer » pour tout un tas de choses, pour des choses banales comme pour exprimer nos sentiments les plus élevés. Ainsi, on aime une couleur, un paysage, on aime le sport, on aime la musique, on aime une paella aussi. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à nos amis qui nous ont confectionné une superbe paella pour les délégués il y a quelque temps. Et puis, j'en profite pour faire une petite pub parce qu'ils sont en photo dans le lien fraternel. Je referme la parenthèse. Oui, on aime tout un tas de choses banales, mais aussi on aime ses amis, on aime ses parents, on aime ses enfants et on aime Dieu. Ce matin, nous allons parler de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu pour nous et de notre amour pour lui. De ses effets, de ses applications. Nous le ferons en nous arrêtant sur la prière de l'apôtre Paul en faveur des Éphésiens. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. De quel amour parlons-nous ? Nous parlons de l'amour de Dieu pour nous, de notre amour pour lui et de ses applications. Pierre Reverdy, poète du siècle dernier, disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». D'abord, l'amour de Dieu pour nous. Tout au long de l'histoire, Dieu s'est approché de ses créatures à travers les alliances qu'il a faites avec son peuple pour leur bien, en usant beaucoup de patience, mais l'homme est resté rebelle. Alors l'Éternel Dieu, pour nous réconcilier avec lui-même, c'est dans Colossiens 1:20, a mis un comble à son amour en donnant son Fils unique. Relisons quelques textes qui nous parlent de l'amour de Dieu. Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 8, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui de prendre part aussi à sa gloire. Mais quand on réfléchit à cela, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Ça paraît incroyable. Nous vivons sur terre avec parfois beaucoup de difficultés. Et là, nous sommes héritiers de la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. On a à peine à imaginer ce que c'est. Romains 8, 38, 39, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, en fait rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 13, verset 8, l'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour, lui, ne meurt jamais. Et 1 Corinthiens 13, 13, maintenant donc ces trois choses restent ou demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Voilà en quoi consiste l'amour de Dieu.
Oui, vraiment l'amour de Dieu de loin surpasse tout ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Je vous propose de chanter ce chant. Vous pouvez vous lever.
Lecture d'Éphésiens 3, du verset 12 au verset 21. C'est la prière que fait Paul pour les Éphésiens et pourquoi pas pour les Nîmois. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Rappelons ici que Paul, quand il écrit cette lettre, il est emprisonné. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous allons nous arrêter sur les versets 17 et 19. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Quelle belle prière ! Comment évoquer la réalité de l'amour de Christ, cet amour qui nous renouvelle et nous fortifie ? Comment passer de connaître à vivre l'amour de Dieu. L'évocation de l'amour suscite de l'émotion, mais Paul vise plus loin ici lorsqu'il parle de l'amour du Christ. Il parle de ne pas être saisi seulement par un moment par l'amour de Dieu, mais il parle d'être enraciné, d'être fondé. Il parle de quelque chose de structuré, de solide, de stable. On est ici dans les ressources profondes de la vie, dans les perspectives de durée. Il ne parle pas d'un moment d'émotion, mais de permanence qui s'inscrit dans l'espérance de la vie éternelle. C'est au cœur des choses qu'il faut le vivre, dans des situations agréables comme dans des situations exigeantes, dans des moments confortables comme dans des moments déstabilisants. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. D'abord, enracinés dans l'amour. La première image qui me vient à l'esprit, c'est celle de l'arbre du psaume 1. Cet arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. L'enracinement, c'est d'abord la stabilité. Un arbre planté et profondément enraciné ne bouge pas. Il ne bougera pas, il n'ira pas voir ailleurs. Et puis ses racines, c'est la vie. Il puise dans le sol les éléments, les substances qui vont l'alimenter. Il y a là une circulation de vie. Il lui faut un sol nourricier pour qu'il vive et porte du fruit. L'enracinement, c'est le lien et la relation qui nous unit. Enraciner dans l'amour, c'est puiser les ressources qui nous sont nécessaires. c'est aussi se nourrir de son amour et vivre la joie et dans la relation et dans la reconnaissance. C'est vivre la joie du pardon, de savoir qu'on peut lui parler, qu'il nous écoute, qu'il nous accompagne. C'est tirer de sa parole et de son esprit les forces nécessaires pour avancer. C'est ce que le Christ a rappelé à ses disciples quand il leur disait de demeurer dans son amour pour que leur joie soit complète ou soit parfaite, selon les versions. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Arrêtons-nous maintenant quand même un instant sur ce qu'implique cette déclaration de Jésus « J'ai gardé les commandements de mon Père ». Cela voulait dire d'abord quitter la gloire de son Père, résister aux tentations de la facilité, du pouvoir, nous supporter, être rejeté, méprisé, aller jusqu'au bout et mourir sur une croix. Imaginons ses dernières heures, ses souffrances, son combat, son angoisse, son agonie. Enraciné dans l'amour pour nous, c'est garder les commandements de Jésus et d'entrer sur un chemin parfois exigeant et d'accomplir la volonté de son Père. Ensuite, donc, Paul nous dit dans sa prière qu'il nous demande d'être fondés dans l'amour de Dieu. Fondés. Là, l'image qui me vient, c'est celle du fou qui bâtit sur le sable et du sage qui bâtit sur le roc. Je n'ose pas vous faire chanter ce petit chant. Oui, là, on est dans la fondation. Ma prière, c'est que vous soyez fondés dans l'amour. L'apôtre Paul demande que cet amour constitue le socle sur lequel notre vie s'appuie et se construit, sur lequel nous construisons nos comportements, nos attitudes, nos choix, notre fonctionnement, quoi. Fondés dans l'amour, c'est ici la question des repères, des appuis fondamentaux de nos vies. Nous avons tous besoin de repères. Chacun a son fondement, sa propre philosophie de vie, en quelque sorte. Nous sommes tous différents et réagissons face aux événements selon notre nature, notre culture, notre tempérament. Pour certains, c'est l'idée qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter, avec tous les comportements que cela comporte. Pour d'autres, c'est l'idée que le monde est une jungle et que seuls les plus forts survivent. Et là aussi, à partir de cette vision, il y a toutes sortes de comportements. Paul prie et demande que nous donnions à l'amour de Dieu ce rôle de repère fondateur, de repère structurant. Être enraciné et fondé dans l'amour. Quels en sont les effets ? Qu'est-ce que cela implique ? D'abord, de changer de regard. Cela veut dire que nous sommes invités à la lumière de l'amour de Christ de changer notre regard ou nos regards sur les événements. C'est à partir de ce que Jésus-Christ a été, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, que nous devons construire notre vie avec l'espérance qu'il a mis dans nos cœurs. Lorsque les vents seront contraires, qu'ils seront même impétueux, cette espérance nous permettra de résister, avec les ressources qu'il nous donne, comme l'arbre planté, comme la maison sur le roc, dans la certitude que l'amour de Dieu aura le dernier mot dans nos vies. Nous aurons des déceptions, des frustrations, des moments de découragement. C'est alors plus que jamais que nous resterons fermes si nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Dans une de ses prédications, Martin Luther King parlait d'accepter une déception limitée tout en adhérant à une espérance infinie. Paul, l'apôtre emprisonné, pouvait dire « Les souffrances du moment ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » C'est dans Romains 8, verset 18. Ensuite, nous devons rester fermes dans sa foi, dans la foi. Et puis, être fondé dans l'amour de Dieu, c'est rester ferme dans sa foi. Nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés, emportés par toutes sortes de doctrines, par la ruse des hommes, par leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui en est la tête, Christ. Ensuite, Paul, naturellement, nous dit de répondre à l'amour de Dieu. Répondre à l'amour de Dieu. Lisons la suite de Jean 15, verset 9. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie en vous soit en vous, que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Voilà mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quelles sont les conditions pour y parvenir? D'abord, de s'imprégner de la parole de Dieu qui décrit ce qu'est l'amour et nous demande de changer de comportement. S'imprégner de la parole de Dieu. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et donc là, il y a un effort à faire. Ça ne se fait pas tout seul. Et cet amour, Paul le décrit dans ce célèbre passage d'1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Que toute amertume, c'est dans Éphésiens 4, versets 31 et 32, que toute amertume, fureur, colère, éclat de voix, calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Enfin, donc, dans Galates 5, versets 13 à 17 et le 22, Paul nous dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire,
soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Paul traite de l'usage de la liberté. Il nous invite à marcher par l'esprit, dont le fruit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quel programme ! C'est un véritable combat pour nous tous, et plus difficile encore selon son tempérament. Demandons vraiment à Dieu de nous y aider. Ensuite, la suite logique, c'est de passer à la pratique. En réalité, nous dit Paul dans Éphésiens 2:10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et nous les pratiquons quand ? D'abord dans notre vie au quotidien, par notre témoignage, notre comportement, en gardant les commandements de Jésus. Et puis nous les pratiquons aussi dans notre Église, l'Église locale qui est la manifestation de l'œuvre de Dieu sur terre. D'abord en se sentant concerné, en étant acteur de l'œuvre de Dieu, pas seulement spectateur. Ensuite, pratiquement, en répondant, par exemple, aux différents appels de service. Et puis en étant attentifs les uns aux autres. Je vous renvoie à la série de Pierre sur les uns et les autres. Nous avons parlé de l'amour de Dieu. Nous avons vu que pour fonctionner comme il faut, il nous faut être enracinés et fondé dans l'amour de Dieu. Et que si nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, il y a des conséquences, il y a des implications, il y a des effets. Et pour cela, nous devons changer de regard, rester fermes dans notre foi et répondre à l'amour de Dieu. Conclusion. Comme nous l'avons chanté en introduction tout à l'heure, dans notre méditation, l'amour de Dieu de loin surpasse tout ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. C'est en étant enracinés et fondés dans l'amour que nous serons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. La largeur, d'abord, c'est cet accueil que Dieu nous fait, les bras grands ouverts. Et puis la longueur, c'est qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps limité. La profondeur, même si nous ne sommes pas bien, même si nous sommes au fond du trou, là encore, l'amour de Dieu vient nous chercher. Dieu nous tend la main. Et puis enfin, la hauteur, c'est cette perspective qui nous amène dans la gloire éternelle. Oui, c'est tout cela qui nous permet de connaître notre Dieu. Et je reprends le verset en entier. C'est en étant enracinés, fondés dans l'amour, que nous serons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu.
Et enfin, pour finir, je vous laisse en conclusion deux images. Celle de l'arbre du psaume 1. Ce psaume 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et puis celle du cep. C'est Jésus lui-même qui parle. Il nous dit « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le cep puise ses forces vitales dans l'amour de Dieu, qui les transmet jusqu'à nous et nous permet de porter du fruit, même beaucoup de fruits. Une condition, demeurer en Christ. Rechantons la première strophe de ce chant magnifique. L'amour de Dieu de loin surpasse tout ce qu'en peut dire un corps humain. Je vous invite à vous lever. Encore une chose avant de laisser la place à Pierre. C'est bientôt Noël, je ne vous apprends rien. Et vous n'allez probablement pas échapper à la tradition des cadeaux. Gardons à l'esprit ce qu'a écrit Jacques au chapitre 1 et au verset 17. Que tout don parfait, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières. Amen.